Chapitre 6. Le sexe et la foi. Le long couloir qui menait à l'aéroport international de Hong Kong jusqu'au Regal Hotel était chamarré d'un assortiment de décorations de Noël. Reine à la face réjouie et cohorte d'elfes auxiliaires, mais ni traîneau, ni cadeau, ni Père Noël. « Il est allé se faire foutre, expliqua Dorothy. Il a dû appeler une escorte. » « Suffit le sexe, Dorothy !» dit la mère à son effrontée fille. À en juger par la vivacité qui se glissait parfois dans ce dialogue un peu surfait entre elles, elle devait voyager de concert depuis des années, des siècles, songea Juan Diego contre toute vraisemblance. En réalité, le Père Noël a élu domicile ici. On subit ses décos merdiques à longueur d'année. « Mais enfin, objecta Myriam, tu n'es pas là toute l'année, qu'est-ce que tu en sais ?» « On est quand même là si souvent que j'ai l'impression d'y habiter, » répondit la fille d'une voix maussade. En montant un escalator, ils passèrent devant une crèche. Juan Diego constatait avec étonnement qu'il n'était pas sorti à l'air libre depuis son arrivée à JFK dans la neige. La crèche était entourée de ses personnages habituels, humains et animaux, dont un spécimen exotique. Ici, à Hong Kong, la Vierge souriait d'un air timide, en détournant le regard devant ses admirateurs. À cette époque de l'année, c'était tout de même son précieux fils qui devait monopoliser l'attention, non? Or, souvent, il n'en était rien. La Vierge Marie lui volait la vedette, et pas seulement à Hong Kong. Il y avait là Joseph, ce pauvre idiot, mais si Marie avait effectivement conservé sa virginité, l'homme semblait gérer au mieux l'épisode de la naissance. Il ne lançait pas de regards noirs ou soupçonneux à tous ces curieux, rois, mages, bergers et autres badauds et autres parasites, une vache, un âne, un coq, un chameau. C'était lui, le spécimen exotique. « Je suis sûr que c'est un roi mage qui l'a engrossé, » spécula Dorothy. « Suffit le sexe !» lui rappela sa mère. Juan Diego se figurait à tort être le seul à remarquer que l'enfant Jésus n'était pas dans la crèche. Peut-être était-il enseveli dans le foin ? « L'enfant Jésus, commença-t-il. « On l'a kidnappé il y a des années, lui expliqua Dorothy. « Et si vous voulez mon avis, les Chinois s'en foutent. « Il est peut-être parti se faire lifter, suggéra Myriam. « Tout le monde ne se fait pas lifter, maman. « Le divin enfant n'est plus de première jeunesse, fit observer Myriam. « Crois-moi, il est allé se faire lifter. « L'Église catholique ne s'est pas contentée de ravaler sa propre façade, dit aigrement Juan Diego, comme si la promotion de la crèche et Noël tout entier était une affaire strictement catholique. Intriguée par sa véhémence, mère et fille le regardèrent stupéfaites. Et pourtant, le ton accusateur de sa remarque n'avait rien d'étonnant quand on avait lu ses romans. Il avait une dent non pas contre les hommes de foi, les croyants de tout poil, mais contre certaines stratégies sociales et politiques de l'Église catholique. Cette aigreur qui s'entendait parfois dans sa voix surprenait cependant tout le monde, tant l'homme était polissé dans ses manières, lent dans ses gestes à cause de son pied infirme. Il n'avait rien d'un kamikaze, sauf dans le domaine de l'imagination. En haut de l'escalator, les trois voyageurs se trouvèrent au carrefour de passages souterrains, dont les panneaux annonçaient qu'ils menaient l'un à Kowloon et dans l'île de Hong Kong, et l'autre à la péninsule de Sai Kung. « Il faut prendre un train ?» demanda Juan Diego à ses admiratrices. « Pas tout de suite !» lui répondit Myriam en s'emparant de son bras. « Ces passages sont reliés à une gare, » se dit Juan Diego, mais il ne comprenait pas toutes ces publicités pour des boutiques de vêtements sur mesure, des restaurants et des joailleries qui proposaient des opales à l'infini. « On va déposer les bagages à l'hôtel d'abord et on en profitera pour se rafraîchir, » lui dit Dorothy en saisissant son bras libre. Tout en avançant, il se figurait boité moins bas que d'habitude. Pourquoi ? Dorothy tirait le sac à roulettes qu'il venait de récupérer, ainsi que le sien, d'une seule main, sans le moindre effort. Comment faisait-elle ? Ils parvinrent devant un grand miroir en pied à côté de la réception de leur hôtel. Mais lorsqu'il jeta un coup d'œil dans la glace, il ne vit pas le reflet de ses deux compagnes si efficaces à ses côtés. Il avait du mal regarder. On va prendre un train pour Kowloon, et on verra les gratte-ciel de l'île de Hong Kong se mirer dans l'eau. C'est plus beau de nuit avec les lumières, lui murmura Myriam à l'oreille. On grignotera un morceau, on boira un ou deux verres, et puis on rentrera à l'hôtel en train, lui glissa Dorothy à l'autre oreille. On aura sommeil à cette heure-là. Quelque chose lui disait qu'il avait déjà vu ces deux dames. Mais où et quand? Était-ce à bord du taxi qui était passé par-dessus la glissière de sécurité et s'était enfoncé dans la neige du sentier des joggers, le long de l'East River? Le chauffeur tentait de dégager ses roues arrière armées de son essuie-glace en guise de pelle. « D'où tu viens, pauvre con du Mexique ?» avait braillé le chauffeur de la limousine. Les visages apeurés des deux passagères s'étaient inscrits dans la vitre arrière. Qu'elles aient été mère et fille possible, mais ce n'était sûrement pas Myriam et Dorothy. Rien ni personne n'aurait pu leur faire peur. Pourtant, il demeurait convaincu de les avoir déjà vues, ces deux femmes redoutables, il en était sûr. « C'est ultra-moderne », déclara-t-il, ne trouvant rien d'autre à dire dans l'ascenseur du Regal Airport Hotel. Mère et fille l'avaient enregistré à la réception et il lui avait suffi de montrer son passeport. Il ne se souvenait pas d'avoir payé. La clé de la chambre se présentait comme une carte de crédit. Une fois qu'on l'avait ouvert, il fallait la glisser dans un boîtier situé contre la porte. « Sinon, la lumière ne va pas s'allumer et votre téléviseur ne fonctionnera pas », lui expliqua Dorothy. « N'hésitez pas à nous appeler si vous avez le moindre problème avec les gadgets modernes, » dit Myriam. « Si vous avez le moindre problème tout court, » compléta Dorothy, qui avait écrit les numéros de sa chambre et de celle de sa mère sur l'étui de la carte. « Tiens, elle ne partage pas la même chambre, » se dit-il une fois seul dans la sienne. Sous la douche, il se remit à bander. Il savait bien qu'il aurait dû prendre un bêta-bloquant, et depuis longtemps. Mais cette érection le faisait hésiter. Et si jamais Myriam ou Dorothy avaient des bontés pour lui, ou, plus inimaginable encore, si elles en avaient l'une et l'autre. Il retira les bêta-bloquants de sa trousse de toilette et les posa près du verre d'eau à côté du lavabo. C'étaient des Lopressor, ovales gris-bleu. Il sortit ensuite les cachets de Viagra et les observa. Ils évoquaient vaguement un ballon de rugby. Ce qui rapprochait le plus le Viagra du Lopressor, c'était leur couleur. Si un miracle faisait que Dorothy ou Myriam avaient des bontés pour lui, il était trop tôt pour prendre du Viagra. Tout de même, il sortit le couple comprimé de sa trousse de toilette et le posa sur le lavabo pour se rappeler qu'un demi-Viagra suffisait. « Voilà que je me fais du cinéma comme un ado en rut », se dit-il en s'habillant pour rejoindre ces dames. Son comportement l'étonnait lui-même. Dans ces circonstances inhabituelles, il ne prit pas son traitement. Il détestait ces bêta-bloquants qui le diminuaient et il ne commettrait pas l'erreur de prendre du Viagra avant l'heure. Hélas, il ne voyageait pas avec son ami médecin. Et s'il devait la remercier, ce n'était pas de ses consignes quant à l'usage du Viagra. Car le docteur Stein aurait pu lui rappeler pourquoi il se faisait l'effet d'un Roméo au destin tragique dans le corps d'un écrivain d'âge mûr et boiteux de surcroît. Quand on saute une dose de bêta-bloquant, gare. Le corps est en manque d'adrénaline. Et voilà qu'il se met à en fabriquer comme il fabrique des récepteurs. Ses prétendus rêves, qui n'étaient que des souvenirs d'enfance et d'adolescence plus intenses et plus précis, lui venaient tout autant du fait d'avoir sauté sa dose de Lopressor que de ce désir soudain et explosif pour deux inconnus, mère et fille, qui lui semblaient curieusement plus familières qu'elle n'aurait dû. Le billet de la navette express qui reliait l'aéroport à la gare de Kowloon coûtait 90 dollars hongkongais. Par timidité peut-être, Juan Diego s'abstint de dévisager Myriam et Dorothy pendant le voyage, car il paraît peu probable qu'il se soit passionné pour chaque mot inscrit sur les deux faces de son ticket. Il comparait les caractères chinois à leurs équivalents anglais. « Un aller simple », disait la face anglaise. Un aller simple en toutes lettres aurait mieux convenu. Comme un titre de roman, pensa Juan Diego. Il griffonna quelque chose sur le billet. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Myriam. « Ça vous passionne à ce point, un billet de train ?»«
Il est encore en train d'écrire, » dit Dorothée à sa mère. « Il passe sa vie à ça. »
« Hong Kongville, billet adulte, » leur dit Juan Diego à haute voix. Il rangea le ticket dans la poche de sa chemise.
Chaque fois que j'entends le mot adulte, je pense à un truc porno, dit Dorothy en lui souriant.
Suffit, lui intima sa mère.
Il faisait déjà nuit lorsque leur train arriva en gare de Kowloon. Les touristes déambulaient sur le port, prenant des photos des gratte-ciels, mais Myriam et Dorothy passé inaperçu au